Et notre invitée ce soir à 18h18, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Bonsoir Elisabeth Borne. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir, ici en direct de Roland-Garros. Ça fait du bien d'ailleurs de retrouver le public dans les allées de Roland-Garros. D'abord, est-ce que vous avez pu profiter, vous aussi, comme le Premier ministre, de cette première soirée de déconfinement en vous offrant aller à un bon restaurant?
Pas encore, je vais essayer de faire ça ce soir.
Bon, c'est important quand même, ça fait du bien.
Absolument,
de retrouver la vie d'avant.
Je pense que c'est un moment qui est positif. Hein. Effectivement, les bons indicateurs sanitaires nous ont permis d'assouplir à nouveau les règles. C'est effectivement une bonne nouvelle pour les Français qui ont pu profiter de 2 heures de plus. C'est une bonne nouvelle pour les secteurs d'activité qui peuvent repartir. Et puis c'était aussi une bonne nouvelle pour beaucoup de salariés qui étaient en télétravail à 100% et qui ont pu retrouver progressivement le chemin du bureau.
Alors il paraît qu'il y a des salariés qui ne veulent pas retourner au bureau et qui préfèrent rester en télétravail. On en parlera, on en dira un petit mot tout à l'heure. Alors l'autre bonne nouvelle du jour, Madame la Ministre, c'est le net rebond du marché de l'emploi au premier trimestre. 89 000 créations dans le privé. Alors c'est une bonne nouvelle, mais ça reste à relativiser, car si on fait le solde depuis le début de la crise sanitaire, j'ai fait le calcul, on est sur 200 000 pertes nettes de postes, mais la tendance est bonne.
Alors effectivement, je pense qu'on a quand même déjoué des prévisions qui étaient très pessimistes hein, pour certaines. On a largement amorti l'impact de la crise sanitaire sur l'emploi, et ces chiffres sont très bons au premier trimestre, où on avait quand même des restrictions sanitaires qui étaient encore présentes. Et voilà, près de 90 000 créations nettes d'emplois dans le secteur privé, je pense que ça montre la capacité de notre économie à rebondir. Ça montre quand même l'impact des aides massives, du prêt garanti par l'État, du fonds de solidarité, de l'activité partielle qui a permis de sauver massivement les emplois.
Oui, l'État a été au rendez-vous, on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup entendu, à juste titre d'ailleurs. Est-ce que vous visez toujours 100 000 créations de postes cette année et 300 000, c'était l'objectif initial, je crois, d'ici fin 2022? Est-ce que c'est atteignable?
Écoutez, on pense qu'on pourra retrouver le niveau d'activité de 2019, début 2022, donc avec les créations d'emplois qui vont avec. Et vous voyez, moi, quand j'entends toutes les entreprises qui nous disent on veut recruter, je pense qu'on voit qu'on a une très bonne dynamique sur l'emploi.
Alors, on entend aussi dans le même temps parfois des rumeurs sur des licenciements massifs dans de grandes entreprises. J'ai une question un peu naïve, un peu toute bête. Est-ce que vous serez, le cas échéant, en mesure de les interdire ou de les limiter si ce sont des entreprises qui ont reçu des aides massives de l'État?
On est très vigilant dès qu'on a une entreprise qui a un projet de restructuration, qui prépare un PSE, à ce que d'abord l'entreprise se saisisse bien de tous les dispositifs qu'on a mis en place pour éviter les licenciements. On a eu l'activité partielle. Maintenant, quand des entreprises anticipent une baisse durable de leur activité, il y a l'activité partielle de longue durée qui permet de bénéficier d'une prise en charge d'une partie des salaires des salariés pendant jusqu'à 24 mois. Oui. Donc il y a tous ces outils qui sont là. Donc à chaque fois, on discute avec les entreprises pour limiter les destructions d'emplois.
Bon, il n'y a pas raison de licencier massivement si on a été soutenu par l'État, a priori.
Si on a des bons résultats, en tout cas, il n'y a pas de raison de licencier.
Alors, dans le détail de ces chiffres publiés ce matin par l'INSEE, ça monte fort pour la construction, ça monte fort aussi pour la santé. Il y a un secteur qui peine considérablement à recruter, c'est l'hôtellerie et la restauration. Il y aurait 100 000 postes à pourvoir avec des professionnels qui nous disent on ne va pas y arriver, on n'aura pas assez de main-d'œuvre pour assurer le tourisme cet été. Qu'est-ce que vous leur répondez?
D'abord,
que peut faire le gouvernement là-dessus?
D'abord, ce que je veux dire, c'est que quand j'entends des entreprises ou des secteurs qui nous disent on veut recruter, on a besoin de recruter,
c'est une bonne nouvelle.
C'est quand même une bonne nouvelle. Mais effectivement, il y a des secteurs qui ont des difficultés à recruter. C'est le cas des hôtels, cafés, restaurants. C'est le cas du bâtiment. S'agissant du bâtiment, il faut être conscient que c'est un secteur qui avait déjà des difficultés à recruter avant la crise. Non seulement on a préservé des emplois grâce aux aides d'urgence, mais avec le plan de relance, on a créé de nouveaux emplois. Et par rapport à ce qu'on avait avant la crise, on a 50 000 emplois de plus dans ce secteur du bâtiment.
Oui.
Donc c'est là encore une très bonne nouvelle. Mais évidemment, on ne reste pas les bras croisés. Moi, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai mobilisé Pôle emploi en demandant de présenter ces métiers qui recrutent aux demandeurs d'emploi.
Oui.
En regardant aussi parmi des demandeurs d'emploi ceux qui ont déjà travaillé dans ces métiers et en leur proposant, si c'est nécessaire, des formations pour qu'ils aient vraiment les compétences dont les entreprises ont besoin.
On peut les forcer à accepter ces emplois, à leur dire si vous en refusez deux, il n'y aura plus d'allocations, il y aura une baisse des allocations.
Aujourd'hui, d'abord, on identifie les demandeurs d'emploi qui ont des compétences dans ces secteurs. On les forme si c'est nécessaire. Et c'est quelque chose qui marche. Cette mobilisation de Pôle emploi, moi, je tiens à dire, elle fonctionne. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, il y a 90 000 offres d'emploi qui avaient été déposées chez Pôle emploi qui ont été pourvues. Dans le domaine des cafés-restaurants, il y a 40 000 offres d'emploi qui ont été pourvues. Je précise aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne déposent pas leurs offres chez Pôle emploi. Oui. 70% des entreprises du bâtiment qui cherchent à recruter ne passent pas par Pôle emploi. Oui. 60% pour les restaurants. Donc moi je dis aux entreprises, faites confiance à Pôle emploi. Je sais qu'il peut y avoir des doutes, mais
Madame la ministre,
ça marche.
Elisabeth Borne, comment on explique ce paradoxe? Parce que c'est structurel, la pénurie de main d'œuvre dans la construction, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des emplois dont ne veulent pas les Français?
Je pense qu'il y a aussi un enjeu d'attractivité. Vous savez, moi, quand le secteur des hôtels, cafés, restaurants nous dit, pendant que les salariés étaient en activité partielle, il y en a qui sont passés à autre chose, je pense qu'il faut aussi que le secteur s'interroge sur l'attractivité de ces métiers. Et c'est un sujet sur lequel, moi, je souhaite qu'on travaille avec ce secteur professionnel. Les gens, ils peuvent aussi vouloir des contrats plus longs. C'est un secteur où il y a beaucoup de CDD. Et ça doit être aussi quelque chose d'important d'avoir des emplois de meilleure qualité. On va y travailler avec
Alors,
ce secteur.
J'ai eu beaucoup de questions de la part des internautes qui nous suivent activement sur le compte Europe 1. Jérôme, par exemple, qui nous dit « J'ai hâte que vous nous rassuriez, Madame la Ministre. Nous, CDD, standardistes, précaires, conférenciers, sur la prolongation des droits au chômage jusqu'à la fin de l'année. » Qu'est-ce que vous lui répondez à Jérôme ?
Alors, je réponds qu'on a prolongé depuis novembre les allocations des demandeurs d'emploi qui étaient arrivés en fin de droit. Et donc ça, on le fait jusqu'à la fin de ce mois. C'est plus de 800 000, 830 000 demandeurs d'emploi qui ont bénéficié de cette prolongation. C'est quand même 3 milliards d'euros.
Oui, mais on s'arrêtera là pour lui répondre.
Alors aujourd'hui, l'activité repart. Et donc je pense que la démarche, puisqu'on a par ailleurs des secteurs qui nous disent on n'arrive pas à recruter, c'est qu'on puisse proposer aux demandeurs d'emploi des formations pour les accompagner vers les métiers qu'ils recrutent.
Merci pour lui et merci pour cette réponse. La réforme des retraites, un peu l'arlésienne quand même de ce quinquennat, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, dit-lui qu'il faut arrêter de bricoler et passer à l'âge de départ à 64 ans. Il en fait d'ailleurs un enjeu de la campagne présidentielle. Il paraît que d'ailleurs c'est une option de travail en ce moment au sein du gouvernement, relever l'âge de départ, d'abord qui est aujourd'hui situé aux alentours de 62 ans.
62 ans.
Est-ce que vous le confirmez, que c'est une option?
Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce qu'on va faire, puisque le président de la République a souhaité avoir un moment d'écoute avec les Français, avec les forces politiques, avec les organisations patronales et syndicales.
Mais au-dessus
de 62
ans. Vous savez,
sur le fond, on est convaincu qu'il faut une réforme des retraites, qu'on a besoin d'un système qui soit à la fois plus lisible, plus juste, et qu'on a un enjeu de ramener aussi notre système de retraite à l'équilibre. On vient d'avoir le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Je pense qu'on sait aussi qu'on est un pays dans lequel un des pays de l'OCDE où on travaille le moins au-delà de 60 ans.
Parce que le président de la République, il a dit cette réforme était très ambitieuse, complexe et du coup porteuse d'inquiétude. Ça veut dire qu'on s'est un peu trompé, que le gouvernement s'est un peu trompé.
Ça veut dire que les objectifs, on garde ces objectifs d'avoir un système plus lisible, plus juste et évidemment de ramener aussi ce système à l'équilibre parce que c'est l'enjeu de sa pérennité, mais qu'il faut certainement trouver un autre chemin et c'est le sens de la phase d'écoute qu'a voulu le président de la République.
Mais est-ce qu'il y aura une réforme avant la fin du quinquennat?
Mais je vous réponds que c'est la décision du président de la République.
On lui posera la question alors.
C'est la décision du président de la République et il faut prendre ce moment d'écoute qu'il a souhaité et puis il a redit aussi. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de faire repartir l'activité, de créer le maximum d'emplois et évidemment que ces emplois soient pourvus.
Bien, un tout petit mot, il nous reste peu de temps pour terminer, mais je voudrais vous poser la question parce que c'est vrai que vous avez dit vous-même que le télétravail allait considérablement modifier. Mmh. C'était un acquis maintenant pour les travailleurs. Et c'est vrai qu'on observe dans les reportages qu'on fait des télétravailleurs qui ne veulent plus revenir au boulot, qui disent nous, on est aussi contents de travailler à distance. Maintenant, on est à la campagne, on a déménagé. Est-ce que vous encouragez les entreprises à télétravailler peut-être plus souvent pour leurs salariés dans l'avenir?
Alors, moi, j'encourage les entreprises à négocier des accords sur le télétravail. Vous savez qu'il y a un accord national qui a été trouvé entre les organisations patronales et syndicales à la fin de l'année. Vous l'avez dit, il y a à la fois des salariés qui
sont... Il y en a qui veulent revenir.
Il y en a qui veulent revenir, qui n'en peuvent plus d'être à 100% en télétravail depuis des mois. Et puis on a au contraire des salariés qui ont changé leurs habitudes de vie et qui veulent rester en télétravail. Ça veut dire que c'est des sujets qui doivent se discuter dans l'entreprise, entre la direction et les représentants des salariés. Et moi j'invite vraiment les entreprises à négocier des accords sur le télétravail.
Bien, merci infiniment Elisabeth Borne d'avoir été ce soir notre invitée. Et bon dîner si vous avez l'occasion et un peu de temps pour aller dîner au restaurant. Merci à vous.